Bonjour à toutes et à tous, on est sur NVS Radio pour l'invité de la rédac et aujourd'hui on reçoit Jean-Christophe Le Forestier et Martine Notary qui font tous les deux partie de l'association Le 58 Solidaire avec l'Ukraine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes récemment rentrée d'un voyage en Ukraine, on parlera de ce voyage après, mais d'abord est-ce que vous pouvez présenter Le 58 Solidaire avec l'Ukraine ?
Tout à fait. Alors, le 58 Solidaire avec l'Ukraine est une association très récente, février 2026. Mais personnellement et beaucoup des membres de l'association soutenaient l'Ukraine dès la déclaration de guerre le 24 février 2022 en organisant déjà des collectes et des convois. Simplement, ces convois s'arrêtaient en Pologne et nous avons souhaité pouvoir emmener directement, puisque les Ukrainiens avaient de plus en plus de mal à sortir du pays, nous avons souhaité les emmener directement aux hôpitaux intéressés par notre matériel.
Combien il y en a eu à peu près ? Est-ce que vous savez le nombre ?
Alors, pour notre association, on en est déjà au quatrième. Le prochain en juillet sera le quatrième, pardon. Mais j'avais fait en octobre un convoi pour l'autre association.
Quand vous faites ces convois, qu'est-ce que vous emportez ? Est-ce que c'est du matériel médical ? Est-ce que c'est de la nourriture, des vêtements ? Qu'est-ce que vous amenez là-bas ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin ?
Alors, la grande priorité, c'est du matériel médical parce que les hôpitaux en manquent cruellement. On nous a dit récemment que le matériel que nous apportions permettait aux hôpitaux publics de rester gratuits. Alors, nous ne sommes pas les seuls, bien sûr. Il y a beaucoup d'associations françaises et européennes qui aident ces hôpitaux. Donc, ça leur permet de rester gratuits et de ne pas faire payer les médicaments ou les soins. Le matériel que nous emmenons, c'est très majoritairement à 95% du matériel médical. Par contre, il est vrai que nous emmenons de temps en temps de la nourriture, des demandes particulières, comme de la nourriture pour les animaux. Et là, on le remet à des refuges qui se sont créés pour accueillir les animaux ayant perdu leur maître suite à une attaque russe. Et nous amenons des fois des demandes particulières, comme il y a un hôpital à Colomia qui n'avait pas du tout de machine à laver le linge professionnel, de sèche-linge ou de fer à repasser.
Pour organiser un convoi humanitaire, c'est quoi les enjeux ? Est-ce qu'il y a des risques ? Est-ce qu'il y a des enjeux financiers, logistiques ? Comment ça se passe ? Combien de temps en amont vous vous préparez à faire ce convoi justement ?
Alors, maintenant que nous avons l'habitude, cela va assez rapidement. Il y a des enjeux financiers assez importants. Deux véhicules, ça peut coûter entre 1800 et 2000 euros pour les emmener et les ramener. On parle de deux véhicules avec une remorque. Nous avons la chance d'avoir la gratuité des péages en France, qui est offerte par les sociétés d'autoroutes réunies dans une association d'aide humanitaire. Nous avons de temps en temps des dons de carburant, mais ça sert à vérifier avec la crise. L'organisation, nous avons la chance d'avoir des chauffeurs et des bénévoles qui nous accompagnent tout le long de la préparation. Donc ce n'est pas trop compliqué, mais on n'est jamais contre une aide supplémentaire. S'il y a des bénévoles qui veulent s'investir dans l'aide à l'Ukraine, ils seront les bienvenus.
Vous parlez des bénévoles. Combien est-ce que de personnes partent en Ukraine ?
Alors, c'est deux personnes par véhicule, donc au maximum quatre à l'heure actuelle vu nos moyens techniques. Et cela suffit largement. Le dernier convoi s'est fait juste à deux personnes parce qu'il s'agissait d'une seule ambulance. Nous avons voulu réduire les coûts, puisque partir à Kharkiv avec un véhicule et revenir vide, ça coûte cher.
Vous êtes parti sur combien de temps ? Vous partez sur combien de temps à peu près ? C'est quelques jours, plusieurs semaines ?
Alors c'est minimum 6 jours. Le dernier, ça a été 7 jours pour l'ambulance. On connaît bien la route, on roule bien. Les alertes aériennes perturbent un petit peu, mais c'est inclus dans le temps calculé. Dans le sens où les alertes aériennes, les Ukrainiens nous guident, nous expliquent où nous mettre, où garer les véhicules pour qu'ils soient protégés, où nous mettre nous pour qu'on soit protégés. Et la dernière alerte, elle était la plus sérieuse, c'était... Mercredi dernier, à Ivano-Frankivsk, il y a eu une alerte très sérieuse puisqu'on a entendu les détonations très proches. On avait l'impression que c'était dans la rue d'à côté. Et dans les faits, les missiles sont tombés sur l'hôpital mère-enfant que nous ravitaillons d'habitude, qui se trouvait à 1 km de notre emplacement.
On va parler de ce dernier voyage. C'est ça qui vous a le plus marqué, c'est ces missiles qui sont tombés très proches de vous ?
Oui, mais pas que cela. Il y a aussi l'accueil des personnes et la reconnaissance qu'ils nous prouvent et qu'ils nous expriment. Ils ont une résilience, une chaleur humaine, une reconnaissance des efforts que nous faisons pour eux. Et ça ne nous donne qu'une envie, c'est d'y retourner.
Est-ce que vous avez de l'appréhension quand même à y aller? Là, bah, vous venez de dire que c'était tombé à peine un kilomètre de là où vous étiez. Comment est-ce que vous sentez de la peur? Comment ça se passe émotionnellement pour vous?
Mais je vais vous dire ce que me disait mon père. La peur, c'est un effet de l'imagination. C'est pour ça qu'on apprend aux soldats à ne pas en avoir. C'est une plaisanterie. Mais je crois que je ne ressens pas cette peur, sauf au moment où. C'est-à-dire qu'on a effectivement été angoissé au moment où cette alerte s'est déclenchée plus précisément. Mais d'habitude, comme on est bien guidé par les Ukrainiens, on ne ressent pas cette angoisse parce qu'eux-mêmes ne l'expriment pas.
Ils ne disent pas ce qu'ils ressentent concernant ça.
Rien dans leur attitude ne laisse penser qu'ils sont inquiets de ce qui va leur arriver. Je crois qu'ils prennent les choses comme elles doivent arriver. Ben, si on meurt, on meurt. Mais en attendant, on agit.
Vous disiez juste avant que vous aviez fourni un hôpital mère-enfant. Qu'est-ce que vous avez apporté cette fois-ci?
Alors l'hôpital mère-enfant leur amène tout ce qui sert à la nourriture interne, tout ce qui sert aux perfusions, tout ce qui sert à soigner, des pansements, des compresses, des couches et du matériel électrique pour les auscultations, pour analyser bien sûr la tension, pour le glucose, la glycémie pardon. Et tout ce qu'on nous donne fait office. Et on le répartit en fonction des besoins de chacun des hôpitaux.
Vous disiez que eux, les Ukrainiens, ne montraient pas leur peur. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement touché? Est-ce que vous avez rencontré du monde, ça c'est sûr, mais des récits qui vous ont particulièrement touché que vous voudriez partager aujourd'hui?
Oui, alors je me permets de prendre la parole parce que j'ai eu un rapport un peu plus privilégié avec la secrétaire de cet hôpital mère-enfant, qui je lui évoquais la nécessité absolue de soutenir au niveau de la jeunesse et des enfants, car pour moi, au niveau de leur histoire et de leur nation, il va y avoir un blanc dans la société, puisque beaucoup de jeunes hommes et moins jeunes sont partis au front, y compris des jeunes femmes. Et elle m'a beaucoup touchée en me regardant avec les larmes aux yeux, en me disant « J'ai deux enfants de 10 ans et 13 ans, et ce que je souhaite moi profondément, c'est qu'ils restent là, c'est qu'on continue à vivre là, et ce que vous faites est... bon, » et merveilleux, enfin, elle ne savait comment nous remercier et nous être reconnaissants de ça. Et c'est vrai que c'est très touchant quand on pense que l'hôpital est ciblé, quoi. Dernièrement, il y avait eu, il y a 15 jours, une alerte où un papa qui allait à la maternité voir son bébé avec la petite sœur est ressorti et les structures n'ont pas été touchées, mais le papa est décédé avec un drone. Et quand on entend ça... on a un peu quand même la gorge serrée et l'émotion. Et moi, personnellement, j'étais ancienne infirmière. Quand je reviens, j'ai la gorge serrée et je me dis, mais je les abandonne. J'ai une sensation de les abandonner. Et je suis obligée de me reprendre après, émotionnellement, en me disant, non, ben, là, on continue. Il faut continuer l'action. C'est essentiel, c'est primordial. Et j'appelle beaucoup de gens à faire de même. Quoi. Voilà.
Comment est-ce que vous communiquez avec eux? Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous avez appris l'ukrainien? Comment ça se passe? Parce que alors, vous disiez que vous discutiez beaucoup avec
alors,
eux.
Alors, j'utilise beaucoup l'anglais, parce qu'il y en a énormément qui parlent anglais, et je maîtrise bien l'anglais. Sinon, il y a le traducteur du téléphone, parce que j'ai malheureusement, je tente d'apprendre l'ukrainien, et c'est vraiment très, très, très difficile, la prononciation.
Sinon...
Mais je ne désespère pas d'y parvenir un jour.
Sinon, on a quand même beaucoup de chance parce que quand on livre effectivement les hôpitaux et qu'on a rendez-vous, on a toujours sur place une personne qui parle français et qui nous guide. Notamment à Ivano et à Kolomia, il y a une école qui s'appelle Taras Shevchenko. Ce qu'ils appellent une école, ça va de la maternelle au bac. Et donc, ils apprennent le français en première langue et l'anglais. Et donc, ils envoient toujours un enseignant pour nous guider et faire la traduction. Et à Kharkiv, c'est la même chose. Il y a eu une responsable d'une association qui a été mariée à un Français qui est venu nous faire la traduction sur place à l'hôpital numéro 25 de Kharkiv.
On va marquer une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. On est de retour sur NVS Radio pour l'invité de la rédac avec l'association Le 58 Solidaire avec l'Ukraine. Vous avez cité tout à l'heure plusieurs villes dans lesquelles vous avez déjà apporté du matériel. Comment les villes elles sont choisies? Est-ce que c'est vous qui décidez en fonction des dernières qui ont été impactées? Comment ça se passe?
Alors non, nous, entre guillemets, nous ne choisissons pas, ce sont nos partenaires qui nous guident. Les partenaires, entre guillemets, par exemple, Kharkiv, nous l'avons fait avec l'association Solidarité Franco-Ukrainienne de Bourges, qui nous a indiqué qu'à Kharkiv, ils avaient besoin d'une ambulance. Donc nous avons décidé de l'emmener. Elle a été d'ailleurs remise au front le lendemain de notre dépôt. C'est-à-dire le matériel a été déchargé dans l'hôpital et l'ambulance est partie au front directement. C'est l'administration militaire rurale locale qui l'a pris en charge. Ivano-Frankivsk, c'est parce que nous avions une association à Clichy qui nous a indiqué que cet hôpital avait besoin de matériel. Donc nous avons pris une partie de leur matériel pour le livrer nous et nous l'avons complété avec notre matériel. Kolomia, c'est sur place qu'on nous a fait découvrir un hôpital de vétérans. Et donc on a constaté leur manque, comme je vous parlais de machines à laver, mais pas que. Ils avaient besoin de matériel pour soigner tous les blessés qu'ils opèrent. Ils ont notamment le même problème que nous en 14-18, celui des gueules cassées. C'est-à-dire qu'il faut tout refaire. Et donc on les a aidés en leur déposant du matériel dentaire donné par la veuve d'un dentiste nivernais.
Vous avez amené beaucoup de matériel en Ukraine. Comment les gens, les auditeurs qui souhaitent participer, donner, aider, comment ils savent ce qu'il faut vous donner? Est-ce qu'il y a une liste quelque part?
Alors, il y a des listes sur les flyers, mais en règle générale, tout ce qui peut servir à des soins nous est utile. Parce que nous allons le répartir en fonction de l'établissement, parce que nous savons, eux, ce qu'ils ont besoin. Vraiment, tout ce qui peut servir à des soins, on nous le donne, ça sera utilisé. Si jamais on nous donne des choses qui ne vont pas être utilisées en Ukraine, nous prévenons les personnes que ça va être donné à une association de Nevers, notamment des vêtements. En vêtements, on n'emmène que des vêtements de chasse hyper chauds l'hiver. On emmène aussi, particulièrement l'hiver, des draps blancs, parce que les Ukrainiens sont très inventifs, ils s'en servent pour se camoufler l'hiver sur la neige. Ils entendent un drone ou ils sont informés qu'il y a un drone qui arrive, ils s'allongent par terre, ils mettent le drap blanc sur eux et le drone ne les voit pas. Mais ça, ce sont des demandes très particulières. Donc, ils peuvent soit appeler l'association, le numéro est public, il est assez connu, c'est le mien, soit se retourner vers un professionnel, notamment les pharmaciens. Il y a notamment la pharmacie Colbert, la pharmacie Clavillier à la Porte de Paris. Il y a le magasin de coiffure, avenue Colbert, des coiffes, ça s'appelle. Il y a l'ANAR qui récupère aussi le matériel pour nous. Comme ils ont une friperie qui est ouverte 5 jours par semaine, ils peuvent recueillir facilement le matériel pour nous. Et nous passons, quand il y a une grosse quantité de matériel, nous déplaçons et nous allons le chercher. Ou alors, on peut nous l'apporter au 12 rue Charleroi, mais sur rendez-vous. C'est un garage que nous gérons pour le stockage.
Vous disiez tout à l'heure que votre prochain voyage, c'est début juillet, c'est ça? Est-ce que vous savez déjà où vous allez aller et qu'est-ce que vous allez emmener?
Oui, nous allons aller principalement à Kolomia, pour l'hôpital des vétérans, mais surtout pour un centre de rééducation qui a une histoire formidable qui nous a énormément touchés. Ça s'appelle La chaleur d'une âme ailée. C'est une maman qui a perdu son fils à 29 ans, qui était héros national parce qu'il avait une vingtaine de victoires sur les Russes à son actif. Il a été descendu à 29 ans et l'État ukrainien lui a versé un dédommagement. Avec cet argent, elle a décidé d'acheter un dispensaire désaffecté, de le remettre en état avec l'aide de tout le village autour, et d'en faire un centre de rééducation. Donc elle récupère les soldats opérés par l'hôpital de vétérans de Kolomia, elle les accueille, elle les soigne, mais elle les soigne sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr un suivi psychologique, mais il y a un traitement physique, puisqu'il y a une salle de sport, et surtout il leur remonte beaucoup le moral avec l'école dont je vous ai parlé, qui vient avec des jeunes pour faire pratiquer des arts plastiques. Comme ça, les soldats pratiquent des arts plastiques avec les enfants. Les enfants viennent aussi faire du sport dans la salle de sport qui a été aménagée pour les soldats. Donc il y a un brassage intergénérationnel dont on devrait s'inspirer en France parce qu'il est formidable au niveau de l'efficacité. Et donc eux ont créé une mini-ferme pour assurer la qualité des aliments qu'ils allaient donner aux soldats. Et pour continuer dans cette qualité, ils ont décidé de créer une cuisine Donc on va leur apporter un peu de matériel de cuisine qu'on a récupéré, toujours pour garantir la qualité de ce qu'ils donnent. Et ce sont les mamars qui viendront cuisiner gratuitement pour les soldats.
On va marquer une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. On est de retour sur NVS Radio pour l'invité de la rédac. On est avec Jean-Christophe Leforestier et Martine Notary de l'association Le 58 Solidaire avec l'Ukraine. On parlait tout à l'heure de l'hommage aux soldats. C'est ça qui vous a le plus surpris dans votre dernier voyage ?
Ce qui nous a vraiment, pas choqué, mais ému au plus haut point, c'est la dévotion qu'ils ont pour les victimes de la guerre, qu'ils soient vivants ou morts. Les vivants sont choyés et requinqués. Les morts sont honorés tous les jours à 9h du matin. Tout le pays s'arrête quelques secondes et l'hymne ukrainien retentit à la fin de cet arrêt pour honorer les morts. Vous avez imaginé la rue François Mitterrand qui serait garnie tout au long, au milieu, de panneaux électoraux portant le portrait d'un soldat mort de la ville. Et ça, vous le retrouvez dans toutes les grandes villes. On l'a retrouvé à Kolomia, à Ivano, à Kharkiv, dans les villages. Vous l'avez même des fois au fronton des églises. Et chacun des portraits est orné de fleurs, de bougies, qui sont entretenues tous les jours. Et quand on passe, on s'aperçoit que ce n'est pas du personnel municipal. C'est des mamans ou des amis ou des voisins qui viennent entretenir.
C'est très émouvant comme histoire. Très. Et je pense que le vivre de ses propres yeux, le voir de ses propres yeux, c'est fois mille.
On acquiert une certaine humilité en revenant, en se disant nos petites misères sont toutes relatives et on arrive là-bas chargé de matériel, mais on repart avec le cœur rempli d'émotions et d'humilité surtout. Enfin, là, je parle pour moi personnellement parce que, bon, j'ai toujours fait du bénévolat, même quand j'étais en professionnel. J'envoyais en Afrique, etc. Et ça m'est toujours resté. Mais là, vraiment, ça prend une autre dimension, cette, de voir le respect qu'ils ont et d'honorer les défunts, des familles. C'est vraiment très, très important et essentiel. Le moindre petit village, la moindre petite parcelle de vie, il y a les portraits de ces défunts et c'est vraiment très émouvant, très très émouvant.
Après ce que vous avez tous les deux vu sur place, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs qui aimeraient peut-être venir vous aider ou qui aimeraient peut-être mettre la main à la pâte, j'ai envie de dire
Surtout qu'ils n'hésitent pas. Je sais que nous sommes attaqués parfois sur les réseaux sociaux sur le fait que qu'est-ce que nous faisons pour les Français. Alors, d'une part, nous sommes tous les deux impliqués dans des associations sociales à Nevers, et là, nous faisons pour les Français, dans d'autres associations. Et tout le matériel que nous emmenons, c'est de la seconde main. C'est du matériel que les hôpitaux français ne voudraient pas. C'est des matériels que les particuliers nous donnent parce qu'ils n'en ont plus besoin. Et il ne manque pas de matériel dans les hôpitaux français. Il manque des médecins. Et ça, les médecins, on ne les emmène pas en Ukraine.
On disait tout à l'heure que vous organisiez aussi d'autres événements. Vous avez organisé une commémoration en février, il me semble, à Nevers. Est-ce que vous en avez d'autres qui arrivent ?
Alors, il y a, le jeudi 21 mai, le Vishivanka Day. Qu'est-ce que c'est, Vishivanka ? Ce sont toutes les broderies ukrainiennes sur des t-shirts ou des chemises. Et donc, jeudi 21 mai, nous avons décidé de vendre, avec le soutien de l'ANAR, que vous connaissez, 127 rue de Marzy, qui donc gère une friperie solidaire et qui accepte de vendre des t-shirts pour nous aider à financer les prochains convois. Il y aura une promotion, en gros 50% sur le deuxième t-shirt, à l'occasion du Vishivanka Day.
Les fonds seront du coup réutilisés pour le matériel que vous allez emmener et le trajet, etc. Mmh.
Tout à fait.
Et on va terminer cette interview par une dernière question. Est-ce que vous avez, pour les auditeurs, une dernière chose à dire ?
Moi, je dirais, c'est vrai que l'Ukraine est passée un petit peu au second plan avec la fameuse guerre, avec les autres guerres, les autres conflits mondiaux. Mais je pense que c'est tellement... Moi, ce que j'ai et ce que je ressens, c'est que l'Ukraine est tellement proche de nous, proche au niveau affect, au niveau sentimentalité, au niveau émotion. Et pour moi, ça représente un petit peu un verrou. Là, j'entre dans la dimension un peu géopolitique, mais c'est un peu le verrou. Et je pense que, bon, il faut les encourager à tenir bon et tenir. Bon, et qu'il faudrait dans l'idéal que ce conflit s'interrompe et s'arrête, mais c'est le verrou parce que, à terme, si ça venait à se poursuivre et à s'éterniser, le verrou vis-à-vis de nous, Français et Europe, toute proche, le verrou sauterait, et pour moi c'est un grand danger. Quoi. Quelque part, il faut les soutenir, c'est indispensable. C'est un acte de nécessité absolue, c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message.
Et moi je rajouterais, je terminerai par les deux slogans ukrainiens, Slava Ukraini, ça veut dire gloire à l'Ukraine, mais qui ne va pas sans ce qui suit, Heroyam Slava, gloire aux héros. Et ça me touche énormément, qu'il ne sépare pas le pays de ceux qui sont morts.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci à vous de
Bonne
nous avoir reçus.
Bonne journée
reçu.
À tous, au revoir.
On était sur NVS Radio pour l'invité de la rédac. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle mission. Tout de suite, le retour de la musique.